Nous ouvrons notre Bible dans le livre de Ruth, bien entendu, au chapitre 1er, pour lire les versets 6 et 7. Ruth, chapitre 1er, versets 6 et 7. Nous reprenons encore une fois les versets 19 à 21, nous lirons ensuite deux autres textes. Donc Ruth 1, 6 et 7, et 19 à 21. La fin du verset 5 nous indique que Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 19, Naomi et Ruth firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendue amère à l'extrême. Comblé, j'étais parti et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Dans le psaume 114, juste les deux premiers versets, psaume 114, les deux premiers versets, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Et puis enfin, dans Jérémie au chapitre 8, les versets 4 à 7, Jérémie chapitre 8, versets 4 à 7. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de revenir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne revient de sa méchanceté et ne dit « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Nous allons basculer ensemble ce matin sur l'autre pente de notre réflexion. Nous avons vu trois des quatre dimensions indissociables de ce territoire que l'ennemi convoite en permanence dans la vie du disciple de Jésus-Christ et qui constitue ce qu'on appelle la vie rétrograde. Nous avons évoqué Bethléem, la maison du pain, et nous avons remarqué qu'en tout premier lieu, la vie rétrograde est un éloignement de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu que nous ne pouvons dissocier Bethléem d'Ephrata, d'après notre texte, quitter cette relation d'intimité personnelle, vivante, avec Jésus-Christ, c'est quitter le fruit, la plénitude, la fécondité, le développement du caractère et des œuvres de Christ en nous. Et puis hier matin, nous nous sommes laissés interpeller par la troisième dimension. Il est question de Bethléem de Juda. Simplement pour le différencier, avons-nous dit de Bethléem de Zabulon, à quelques kilomètres de Nazareth. Juda, qu'il soit célébré, qu'il soit loué. Et quitter cette relation avec Christ, quitter la fécondité, c'est effectivement entrer dans cette spirale destructrice de l'amertume, de l'insatisfaction spirituelle qui est le lot de ceux et celles qui se privent, qui se détournent de la grâce. Nous reviendrons en particulier sur cette dimension. Plus de joie dans le Seigneur, plus d'esprit de louange, plus de reconnaissance. Une vie de prière qui s'étiole ou qui devient simplement formelle. Ils ne prient pas Dieu dans leur cœur, avons-nous dit hier. Nous arrivons donc à la quatrième dimension, elle va de soi. Il s'agit d'Israël, le territoire d'Israël. Nous venons de le lire d'ailleurs dans le psaume 114 et dans les versets 1 et 2. Juda fut son sanctuaire, Israël fut son domaine. Israël. La famille d'Élimélec a quitté Israël. Israël qui signifie, il y a toujours eu quelques querelles sur la signification parce que dans le texte hébreu, il y a deux mots. Il y a deux mots, Dieu lutte, les deux mots sont là, alors on les a mis dans tous les sens, mais manifestement, le contexte est clair et il faut trancher nettement en faveur de l'idée « Il lutte avec Dieu », qui n'est d'ailleurs pas à dissocier d'une seconde idée « Dieu lutte ». Pour lui. Il lutte avec Dieu. Et vous connaissez certainement cette histoire du combat bouleversant, pathétique, impressionnant de Jacob dans la nuit du gué de Jabbok, lorsqu'il est coincé, n'est-ce pas, mis dans une impasse. Cet homme qui avait toutes les ficelles jusque-là du métier de trompeur, de calculateur, et que finalement, nous dirions, Dieu met au pied du mur. Mais qui a soif de Dieu, parce qu'il est l'homme qui, d'une manière toute particulière, même dans toute sa dimension, par certains côtés terriblement charnel, a soif de Dieu et de sa bénédiction, et qui s'écrie dans ce combat nocturne, mais je ne te laisserai partir avant que tu ne m'aies béni. Et c'est là, dans cette nuit de Jabbok, qu'il reçoit la révélation du nom nouveau qui va correspondre à une situation nouvelle, à un statut nouveau, à un statut communiqué uniquement par grâce. Et ceci sera répété un peu plus tard dans son retour ou dans l'aboutissement de son retour dans la terre promise. Israël, il lutte avec Dieu. Il lutte Dieu littéralement. Genèse 32, verset 29. Il y a d'ailleurs, puisque nous étudions Osée en parallèle avec Ruth, il y a dans Osée au chapitre 12 un passage qui est fortement suggestif à cet égard. Osée chapitre 12, verset 4 et suivant. Peu à peu, le livre d'Osée s'éclaire. Je crois que nous aurons de la joie ensuite à le relire personnellement. Chacun, Osée 12, verset 4. Dans le sein maternel, Jacob, et disons-le au passage, Dieu demande au prophète Osée d'appeler Israël par son ancien nom. C'est-à-dire que à cette époque d'Osée, que nous avons déjà un petit peu vu ensemble et qui précède de très peu la déportation du royaume du Nord, Dieu considère qu'Israël n'est plus digne de porter ce nom-là. Et il l'appelle Jacob, déjà à la fin du verset 3. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda. Il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Et puis, ensuite, il essaye de montrer pourquoi Jacob est devenu Israël. Ce qui s'est passé, qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un changement de nom dans la vie de ce personnage. Dans le sein maternel, Jacob, sous-entendu le trompeur, le supplanteur. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Voilà une des raisons pour lesquelles il faut traduire dans ce sens le texte de Genèse 32. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Et pourquoi il fut vainqueur? Il pleura et il lui adressa des supplications. Ce n'est pas une victoire orgueilleuse, n'est-ce pas? La victoire de celui qui écrase et qui pose le pied sur le cou de l'ennemi, comme on faisait jadis, n'est-ce pas, dans les guerres. Mais c'est vraiment la victoire de celui qui supplie, de celui qui continue à se considérer comme l'inférieur, qui a besoin de la grâce de Dieu, qui adresse des supplications. Et il nous est dit que Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et vous connaissez cette histoire du songe de Jacob alors qu'il va, au début de ses 20 années qui vont être très difficiles, vers le pays de ses ancêtres, pour être formé par Laban, n'est-ce pas, et qui, lors d'un songe pendant la nuit, voit cette échelle. Et Dieu va s'adresser à lui au moyen de ce ciel ouvert concernant la sollicitude de Dieu qui va prendre soin de lui. Et c'est ce lieu qu'il va appeler Bethel, maison de Dieu. Et c'est intéressant qu'Osée, de la part de Dieu, rappelle cet événement. Pourquoi, n'est-ce pas, Jacob l'avait trouvé à Bethel? Parce que, souvenez-vous, je vous ai expliqué que c'est précisément dans ce lieu même, à Bethel, au cœur du territoire d'Israël, ainsi qu'au nord à Dan, que Jéroboam Ier avait érigé ce sanctuaire païen, n'est-ce pas, avec ce veau d'or, et qu'il avait ensuite invité le peuple d'Israël à considérer que ce veau d'or était le Dieu qui l'avait délivré d'Égypte. Et pourtant, Jacob l'avait trouvé à Bethel. Ça aurait dû parler au cœur du peuple d'Israël. Est-ce que vous vous rendez compte de quel éloignement vous êtes coupable? Mais c'est précisément là, à Bethel, maison de Dieu, que Dieu s'est révélé à Jacob. Ça a été un tournant dans la vie de Jacob. Et d'ailleurs, ça a été un immense tournant, puisque dans Genèse 35, au retour, 20 ans plus tard, Genèse 35... N'est-ce pas, la Bible nous parle par la Bible, hein? Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Voyez, on revient à cet endroit de bénédiction et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel, et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. C'est là, n'est-ce pas, qu'ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Et alors, il nous a dit que lorsqu'ils partirent, la terreur de Dieu se répandit, dit, sur les villes qui les entouraient. Il s'est passé des choses extraordinaires dans ce contexte de Bethel. Il y avait là une rupture avec l'idolâtrie, avec un passé douteux. Il y avait là un changement extraordinaire dans la vie de Jacob et des siens. Et c'est ce que l'Éternel veut rappeler à ce royaume du Nord, et déjà par ricochet au royaume du Sud, puisque ça, c'est aussi une des particularités du livre d'Osée, c'est que dans l'introduction, il nous est dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Osée au temps d'Ozias, Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et seulement après, au temps de Jéroboam, roi d'Israël. Or, nous l'avons vu. Osée est d'abord le prophète du royaume du Nord, mais en même temps, il s'adresse au royaume du Sud, en lui disant, mais toi, tu n'es pas sur la bonne voie. Ça va mieux que dans le royaume du Nord, mais méfie-toi, parce que tu files un mauvais coteau. Et si ça continue, tu vas prendre exactement le même chemin que ce territoire du Nord d'Israël, que ces 10 tribus. Jacob, je reviens au texte, l'avait trouvé à Bethel. C'est là que Dieu nous a parlé. Puis alors là, il y a une déclaration solennelle. L'Éternel est le Dieu des armées. Dieu n'est pas n'importe qui. Et quand il est question du Dieu des armées dans la parole de Dieu, c'est de toute la question de la souveraineté du Dieu créateur et dominateur sur le cosmos qu'il est question. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Vous avez oublié, peuple d'Israël, qui est l'Éternel? Vous avez oublié votre passé, la rencontre de Dieu avec vous dans le passé, au travers de l'histoire de Jacob. Israël, il lutte avec Dieu, et c'est cela la vie rétrograde. La vie rétrograde, c'est quitter la terre d'Israël, c'est-à-dire cesser d'être un lutteur, et cesser d'être un vainqueur. Être rétrograde, c'est cesser de se battre. C'est cesser de se battre pour être béni de Dieu comme Jacob. Dans le fond, ce qui plaisait à Dieu dans le cœur de Jacob, c'était cela. Nous l'avons dit tout à l'heure. Jacob, un homme éminemment charnel, mais qui, à la grande différence d'Ésaü, mettait en priorité dans sa vie son désir de Dieu, par tous les moyens. Par tous les moyens, hélas. Il avait un peu dans sa vie spirituelle ce slogan « La fin justifie les moyens ». Si la fin est spirituelle, bon, peu importe qu'on utilise des moyens qui soient douteux, pourvu qu'on aboutisse, n'est-ce pas? Alors Dieu a dû changer cela dans sa vie. Mais il y avait cette rage d'être béni de Dieu. Jacob ne voulait pas passer à côté. Et je dirais qu'aux yeux de Dieu, notre problème n'est pas d'abord que nous soyons charnels ou que nous ne le soyons pas, nous le sommes de toute manière tous, d'une manière ou d'une autre, mais que nous ayons soif de devenir des hommes et des femmes spirituels. Bénis de Dieu. Être rétrograde, c'est cesser de se battre pour être béni de Dieu comme Jacob. C'est-à-dire, dit d'une autre manière, c'est être un installé dont les intérêts personnels passent avant ceux de Jésus-Christ. Ça, c'était un peu le problème d'Ésaü, n'est-ce pas? Celui que le Nouveau Testament appellera le profane, littéralement celui qui vit hors du sanctuaire. Celui qui n'est pas d'abord préoccupé des sanctuaires de Dieu. Celui qui était beaucoup plus intéressé par les questions matérielles. Celui pour lequel,
À un moment donné, l'héritage sur le plan matériel avait beaucoup plus d'importance que l'héritage au plan spirituel. Celui qui se donnait tellement à fond dans le domaine matériel qu'il était ensuite trop las et fatigué, vidé, pour pouvoir considérer la valeur des choses spirituelles. Et c'est ainsi qu'il vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Quel contraste entre ces deux personnages! Il n'y a plus d'esprit de conquête chez celui qui est rétrograde. Et je vois dans Israël deux domaines très forts dans les Écritures, dans lesquels le disciple de Christ rétrograde est en recul. Tout d'abord, Israël est par excellence la terre de la parole de Dieu. Par excellence. Les oracles de Dieu nous ont été confiés par le peuple juif. Nous bénissons Dieu pour cela. Israël est la terre de la parole de Dieu. Il n'y a plus dans la vie du rétrograde de passion pour la parole de Dieu. Il y a, bien au contraire, l'oubli des promesses de Dieu. La Bible, parole de Dieu, devient le livre fermé. Et si je reviens un instant à Élimélec et Naomi, je dirais, à nouveau sans faire leur procès, parce que je me reconnais, vous vous figurez bien que lorsque le Seigneur a parlé à mon cœur de toutes ces choses, c'est moi qui ai été labouré. C'est moi qui me suis reconnu tant de fois dans cette situation. Élimélec et Naomi ont oublié les promesses de Dieu pour les temps de famine. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Psaume 34, verset 11. Et il est frappant dans le livre d'Osée de voir cette litanie qui revient continuellement, cette douleur lancinante, une fois de plus, qui émane du cœur de Dieu, lorsqu'il fait dire au prophète Osée concernant ce peuple d'Israël rétrograde, chapitre 4, verset 6 d'Osée, « Tu as oublié la loi de ton Dieu. » Chapitre 4, verset 10, « Ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. » Chapitre 8, verset 1, « Ils ont transgressé ma loi. » Chapitre 8, verset 12, « Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. » Continuellement, dans ce caractère terriblement rétrograde du royaume du Nord, s'inscrit de manière très forte ce désancrage, ce décramponnage par rapport à une parole de Dieu lue, chérie, passionnément et suivie. Et puis, deuxièmement, Israël est la terre de la parole de Dieu, c'est vrai. Mais Israël est aussi la terre de l'assemblée de l'Éternel. Nous l'avions laissé sous-entendre. Nous le voyions venir au long de nos précédentes études. Et en fait, c'est peut-être dans ce domaine qu'aussi c'est très grave. Élimélec et Naomi sont devenus des déserteurs par rapport à l'assemblée de l'Éternel à laquelle ils appartenaient. Et là, j'aimerais venir toujours avec cette pensée qu'il nous faut saisir l'unité des Écritures, ce message qui revient absolument partout. J'aimerais aller simplement dans un des tout derniers livres de la Bible, le livre du prophète Agée, au chapitre 1er, qui évoque une situation bien plus tard, au retour d'exil du royaume du Sud, n'est-ce pas? Donc dans les années 539, à peu près 538 avant Jésus-Christ, bien plus loin, mais toujours le même problème. Agée, chapitre 1er. Agée, chapitre 1er. Lisons dès le verset 1er. La seconde année du roi Darius, en 520, Le peuple d'Israël, enfin, Juda est déjà là depuis plus d'une quinzaine d'années dans son territoire. Le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots: ainsi parle l'Éternel des armées. Remarquez, l'Éternel des armées. Il y a une constellation dans Agée, Zacharie, Malachie de cette expression l'Éternel des armées. Toujours dans ces moments où le peuple d'Israël a été rétrograde, où le royaume de Juda a été rétrograde, le langage de Dieu a changé et Dieu s'est présenté de manière très très forte comme l'Éternel des armées. Quelques 86 fois à partir d'Agée et jusqu'à la fin de Malachie revient cette expression l'Éternel des armées. Ce peuple dit, remarquez là aussi, non pas mon peuple dit, ce peuple dit. Tout à fait le même type de pensée qu'au début du livre d'Osée. Ce peuple n'est plus mon peuple. S'il agit comme ça, mais comment est-ce que je peux le considérer comme mon peuple? C'est ce peuple désormais. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ça, c'est le raisonnement de l'époque. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Toujours ce rappel, quelque chose de lancinant. Sachez qui vous parle, ce n'est pas n'importe qui. Considérez attentivement vos voies, mettez dans votre cœur, réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le moût, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Voyez cette analogie. Début du livre de Ruth, livre d'Osée, ici Agée, et nous avons vu tant d'autres passages qui vont tous dans la même direction. Mes amis, je le redis, l'Ancien Testament est un livre d'images. Ces grands textes de doctrine des épîtres du Nouveau Testament nous deviennent extraordinairement accessibles à partir de, je dirais, de cette incarnation de la doctrine déjà là en germe dans tous ces textes champêtres, agricoles, ces idylles, n'est-ce pas, que nous voyons en ce moment. La vie rétrograde se traduit, dira le prophète Agée, comme Osée, par un changement de centre de gravité, par un changement de priorité. L'ennemi avait essayé d'intimider 15 ans plus tôt, au moment du retour de l'exil, et après 15 années d'arrêt des travaux de reconstruction du temple. On discutait les uns chez les autres. Et on disait, les temps sont mauvais, la conjoncture actuelle n'est pas favorable à la construction, nous dirions aujourd'hui, de l'Église. Et Agée de dire, mais vous savez, ce sont les excuses du défaitisme. Ça ne correspond pas à la réalité. En réalité, c'est le refus du combat de la foi, c'est simplement une question de perte de la vision. Votre problème, c'est que vous avez laissé croître insidieusement une indifférence pour le service de Dieu, pour la construction de son Église. Votre vie rétrograde, c'est une infiltration lente d'un nouvel état d'esprit, une sorte d'engourdissement spirituel, une apathie qui est venue peu à peu. Peu à peu, bâtir la maison de Dieu a fait place à embellir sa propre maison. Parce que, regardez un peu, vous avez perdu toute vigueur pour lutter concernant les intérêts de Dieu. Mais avez-vous perdu toute vigueur quand il s'agit de lutter pour vos propres intérêts? Réfléchissez.
Voilà ce que dira le prophète Agée. Chacun est mobilisé par le chez-soi. Progressivement, toute vitalité est étouffée par la pieuvre du matérialisme. C'est ce que nous trouverons encore dans le prophète Amos. Et vous vous souvenez de la position du prophète Amos pour le même royaume du Nord. Amos prépare le message solennel et décisif du prophète Osée, n'est-ce pas? Et dans Amos, au chapitre 6, et dans les versets 4 à 6, vous avez exactement la même pensée liée au luxe effréné, au haut niveau de vie, à la super prospérité sous Jéroboam 2, n'est-ce pas? Alors vous avez c'est aussi très imagé au chapitre 6, verset 4, n'est-ce pas? Il repose sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Et simplement un mot. Par contraste, si fort, vraiment très fort en lui-même, un long développement sur ce luxe extravagant qui étouffe la spiritualité, et puis de manière ramassée, n'est-ce pas? Il ne s'attriste pas sur la ruine de Joseph. Et Joseph était un nom générique pour l'ensemble des 10 tribus du royaume du Nord. Comme Éphraïm, qui avait été la tribu la plus importante du royaume du Nord, était devenu un générique, n'est-ce pas? C'était la partie pour le tout, n'est-ce pas? Il ne s'attriste pas sur la ruine de Joseph. Nous sommes, par exemple, ici très loin de l'attitude de Néhémie à la cour du roi Artaxerxès, n'est-ce pas? Et qui reçoit des nouvelles de ses frères dans la chair et de ses frères dans la foi aussi, concernant la situation de Jérusalem, dont les murailles sont détruites, calcinées, qui est un monceau de ruines, et dont il nous est dit qu'il se met à pleurer. Il s'abîme dans le jeûne, dans les larmes, il s'interroge. Il se met à prier. Oh, il a un portefeuille ministériel qui lui permet de ne se faire aucun souci concernant ses besoins de tous les jours. Il pourrait dire après tout, hein, maintenant on est loin de tout ça. On l'a bien mérité, mais pas du tout. Cet homme va réfléchir, il va prier pendant 4 mois devant Dieu. Il va chercher la solution de Dieu et Dieu va l'interpeller, va lui dire maintenant c'est toi qui vas te lever, c'est toi qui va partir. Tu vas changer de niveau de vie. Tu gagneras beaucoup moins. Tu vas devenir un pionnier dans une terre difficile. Retourne à Jérusalem. Quel contraste, n'est-ce pas, dans les Écritures. Voilà ce qu'est le rétrograde. J'ai ici sous les yeux ce texte impressionnant de Charles Studd. Et si vous ne l'avez jamais lu, lisez cette remarquable biographie de ce missionnaire champion de Dieu. Et il écrit à un moment donné dans cette biographie: « J'ai l'intention, tant que je serai en selle, de chevaucher, d'entraîner les autres à la charge et non de me laisser porter au ciel sur un lit de fleurs. Je commence à avoir terriblement peur qu'à la place du feu divin parmi nous, on ne se contente de ce qui pétille et qui mousse. Je trouve qu'un grand nombre parmi nous manque de solidité.
qu'on consacre beaucoup plus de temps qu'il ne convient à bavarder et à manger, et qu'enfin la complaisance envers soi-même remplace trop souvent le sacrifice total de soi-même, base primordiale. Ah, comme nous avons besoin de vivre avec intensité, avec toujours plus d'intensité. Nous devons toujours être au sommet de la vague, et cela d'autant plus que tous ceux qui nous entourent sont dans le creux de la lame du péché. Nous avons donc, au moment, comme je le disais tout à l'heure, de basculer dans ce processus du réveil, nous avons donc l'occasion de faire le point dans notre vie. Et vous savez que c'est nécessaire, et que souvent un temps comme celui-ci à l'écart est l'occasion dans nos vies de faire le point. Et donc de réfléchir à notre conduite. Où en suis-je ? Quant à ma position stratégique, où suis-je ? En Moab ? En route vers Moab ? Sur le point de céder à l'ennemi ? À quel moment peut-être ai-je quitté le territoire divin ? Par quel processus ? Parfois dans nos vies, c'est consécutif à un péché bien précis qui installe une ligne de fracture, qui marque une sorte de rupture très claire dans notre relation avec Dieu. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Souvent, la vie rétrograde, c'est quelque chose d'insidieux, une sorte d'insomnie, ou d'entrer plutôt dans un sommeil, mais très, très progressif. Insensiblement, la flamme diminue et le feu s'éteint. Et il nous faut nous poser la question : à quel moment ai-je quitté le territoire divin ? Par quel processus ? Où en suis-je dans ma relation avec Bethléem, Ephrata, Juda, Israël ? Quatre dimension indissociable. Et je le redis, si la première dimension est en souffrance, tout le reste sera en souffrance. Alors maintenant, nous pouvons comprendre tout le relief que va prendre ce que nous pourrions appeler une manœuvre stratégique. Nous avons vu un choix stratégique. Mais maintenant s'opère une manœuvre stratégique, une manœuvre stratégique salutaire. Et notre seul regret, qui est toujours un avertissement, n'est-ce pas, c'est que Élimélec n'ait pas fait cette manœuvre. Qu'il ait été enterré en terre moabite. Comme si Dieu vraiment avait voulu nous dire, mais attention, ta vie ne t'appartient pas. C'est moi qui suis souverain dans ce domaine. Ce n'est pas vrai que tu disposes de temps. Tu n'en sais rien. C'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut être prêt. Alors nous allons examiner ce processus de réveil personnel dans la vie du seul survivant de la famille, Naomi. Et nous allons voir les caractéristiques fondamentales de ce réveil telles qu'elles se retrouvent partout dans les Écritures. Ce vocabulaire commun aux prophètes qui se sont adressés à Israël, siècle après siècle. Nous allons nous pencher sur ce que j'appelle les étapes obligatoires et indissociables du réveil. La Bible ne nous présente aucun raccourci pour y parvenir. Et comme je l'annonçais d'emblée, dès jeudi matin, Pour chacune des étapes du réveil, l'ennemi essaye les contrefaçons. L'ennemi essaye de caricaturer. Ou l'ennemi essaye de nous bloquer en chemin pour que le réveil personnel avorte. Alors il y a, et dans Jérémie, chapitre 4, verset 3, par exemple, et dans Osée aussi, une image très forte, encore du domaine de l'agriculture. Jérémie 4, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. C'est une image du réveil. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Alors ensuite, le message est spiritualisé, si vous voulez. Mais il y a d'abord l'image, ça c'est la beauté de la pédagogie de Dieu. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Et ça c'est une terminologie que nous connaissons bien dans le Nouveau Testament, dans Colossiens chapitre 2, n'est-ce pas? Mais voyez là, toujours ce pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et la manière dont l'image de l'Ancien Testament peut nous aider à comprendre le message fort du Nouveau Testament. Et dans Osée chapitre 10, verset 12... Osée chapitre 10, verset 12. Vous avez la même image. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, littéralement selon la loyauté. C'est notre recette dont nous nous sommes entretenus, notamment dimanche matin. Semez selon la justice, moissonnez dans la loyauté. Dans la loyauté, on va parler de loyauté dans le réveil. Défrichez-vous, encore défoncez un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Nous l'avons dit, le rétrograde n'est plus un chercheur de Dieu. C'est un installé. Alors il est temps Israël, il est temps peuple de Dieu aujourd'hui, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. J'ai ici sous les yeux sélectionné un très beau texte extrait d'un livre publié au Québec qui s'intitule « Les chemins vers la puissance » et qui est d'un homme de Dieu qui a beaucoup marqué son époque, qui est décédé dans les années 60, Tozer. Et commentant Osée 10-12, voilà ce qu'il écrit. Nous avons ici deux sortes de terres. Une terre inculte et une terre labourée par la charrue. La terre en friche est béate, satisfaite, protégée du choc de la charrue et de l'action énergique de la herse. Un tel champ, laissé à son état naturel année après année, devient le lieu de prédilection de la corneille et du jais bleu. Si ce champ était doué d'intelligence, il pourrait s'enorgueillir de sa réputation. En effet, il offre de la stabilité. Il a été adopté par la nature elle-même. On peut compter sur lui pour rester tel qu'il est, alors que les terres environnantes passent du brun au vert et du vert au brun. Sûr et paisible, il se vautre paresseusement au soleil, offrant l'image d'un contentement béat. Cependant, il paie un prix élevé pour sa tranquillité. Jamais il ne voit le miracle de l'éclosion de la semence, ni la beauté du grain mûrissant. Il ne saura jamais ce que c'est que du fruit, parce qu'il a peur de la charrue et de la herse. En opposition directe à ce triste tableau, le champ cultivé s'est abandonné à l'aventure de la vie. La barrière protectrice s'est ouverte pour laisser passer la charrue. Et la charrue est venue comme toutes les charrues, pratique, cruelle, tranchante et pressée. La paix a été rompue par les cris du fermier, le bruit des machines. Le champ a senti les douleurs de la transformation. Il a été dérangé, retourné, meurtri, brisé. Mais ses souffrances seront bientôt récompensées. La lumière du jour voit émerger de la terre le miracle de la vie. Pousse minuscule, curieuse de voir et d'explorer le nouveau monde au-dessus d'elle. Et en relisant cela, je pensais ce matin du prophète Sophonie qui a aussi un langage qui va dans le même sens mais qui se termine d'ailleurs d'une manière particulièrement belle et glorieuse puisqu'il est question de Dieu qui, dans les transports de son amour vis-à-vis d'Israël, réveillé dans ses transports d'allégresse, se tiendra dans le silence de son amour. Mais dans Sophonie 1.12, avant cela, Sophonie 1.12, il est dit ceci, « En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtierai les hommes littéralement accroupis sur leurs lits. » Hein, ils sont comme une bouteille de vin qui n'a pas subit ce travail continuel, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, qui consiste à la tournée. Vous savez, le travail, c'est quelque chose de très intéressant, que ce travail dans les caves pour amener le vin à maturité, si vous voulez. Non, on refuse d'être secoué. On veut rester accroupi sur sa lit comme Moab. Nous avons vu déjà cette expression concernant Moab. C'est intéressant. Dans Jérémie 48, 11, il était dit que c'était le drame de la fausse sécurité de Moab dans ses richesses pourtant incertaines. Mais là, dans Sophonie 1,12, le péché de Moab est devenu le péché d'Israël. Il refuse d'être secoué, remis en question. Et comment est-ce qu'ils réagissent? Ça, nous allons le voir de manière très claire maintenant. Ces hommes de Jérusalem, ils disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. C'est-à-dire que toute leur vision de l'Éternel, liée à l'obscurcissement du péché dans leur vie, toute leur vision de l'Éternel est complètement faussée. De même que leur vie est devenue fade, la vision de l'Éternel, elle aussi, est devenue fade dans leur vie. Alors, à partir de là, quel est, je dirais, le premier R, cela va nous aider à retenir le message. Quel est le premier R du réveil? Eh bien, nous l'avons tout d'abord au chapitre 1er du livre de Ruth et au verset 13. Dans ce dialogue pathétique, bouleversant, entre Naomi et ses deux belles-filles, là, sur le chemin poussiéreux, à quelques pas, sans doute, du Jourdain, ce moment où une rupture doit s'opérer, et nous savons que souvent, le Jourdain, dans les Écritures, c'est la rupture liée à la croix, n'est-ce pas? Et là, une conversation s'engage. Ah, Naomi, dans son processus de réveil, est en train de, je dirais, retrouver le goût d'une véritable évangélisation. Pas une évangélisation à l'eau de rose. Elle, au contraire, elle tient à ce que ses deux belles-filles mesurent bien le coût du changement. L'acte qu'elles vont accomplir, ce ne sera pas rien que de franchir le Jourdain. Ce sera un changement énorme. Et là, lorsqu'elle commence à expliquer la situation au verset 13, elle dit, dans la deuxième partie du verset 13, « Non, mes filles, à cause de vous, non pas par votre faute, mais en voyant votre situation, vous deux veuves, ayant perdu vos maris en Moab, sans postérité, à cause de vous,
je suis dans une grande affliction. Ou encore car pour moi, l'amertume est extrême. De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi, elle leur dit, vous savez, je ne vous cache pas que, en vous regardant, en voyant tout ce qui s'est arrivé et ce que vous avez vécu, en réalisant que j'ai aussi ma part de responsabilité avec mon défunt mari, je suis dans une amertume extrême de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et puis nous l'avons vu, nous l'avons lu et relu encore, n'est-ce pas? C'est arrivé à Bethléem quand elles arrivent à l'entrée de la cité qui fut en ébullition à leur sujet. On peut imaginer cette scène orientale. Hein, ces femmes qui caquettent, qui parlent l'une avec l'autre, qui s'interrogent, qui vont de l'une à l'autre, n'est-ce pas? Qui s'approchent, qui regardent, qui scrutent. Et puis Naomi qui reconnaît. Et c'est toujours le premier R du réveil. Reconnaître. Naomi qui ne cherche pas de faux semblants. Elle n'a pas une sorte de sourire crispé qui ressemble plus à une grimace, n'est-ce pas? Elle ne sort pas de sa valise une série de diapositives en disant, vous savez, hein, j'ai fait du tourisme, c'était extraordinaire. Ah, si vous savez. Ah, ce que vous manquez de ne pas aller là-bas. On organise ce soir une grande séance de diapositives. On va vous raconter mon séjour là-bas. Vous allez voir un petit peu. Des choses fantastiques. Pas du tout. Elle n'essaye pas de donner le change. Elle refuse le masque du bonheur apparent. Elle avoue ouvertement devant Dieu et devant les hommes aussi, son échec, son vide, son amertume, sa culpabilité. Son recul, son besoin d'une nouvelle rencontre vivifiante avec El Shaddai. C'est pour cela qu'elle l'appelle ainsi dans sa confession. Lui, il est resté Shaddai. Il est resté le Dieu de la fécondité. Il est resté le Dieu qui protège et qui nourrit. Et c'est de cela que j'ai besoin. Il existe un proverbe arabe qui dit ceci, « Bien des gens sont comme les horloges qui indiquent une heure et en sonnent une autre. » Et je suis frappé ici de l'analogie déjà évoquée dans le passé entre la confession de Naomi et la confession du fils prodigue, dans Luc 15, 17. Lorsqu'au milieu de ses cochons, il réfléchit, il pense, torturé dans son cœur, et qu'il finit par dire, « Mais combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. » Mais ça, c'est Naomi, n'est-ce pas? Puis continue, oh, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, je suis plus digne. Ça, c'est l'étincelle du réveil, liée à la juste attitude du père, qui, malgré sa détresse intérieure, sa souffrance intérieure, a refusé de céder à l'envie d'atténuer la souffrance. Jour après jour, il était là, le père, il regardait à l'horizon. Il s'inquiétait de l'enfant, mais jamais il n'a envoyé de chèque.
jamais il n'a fait de colis de provisions. Parce que ce n'eût pas été défricher un champ nouveau. Cela n'aurait fait qu'accroître la fausse quiétude du fils reposant sur sa lie. Vous connaissez ce texte, je dirais une des Marseillaises du réveil dans 1 Roi 8:38. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël, ça commence par un homme, hein, vous remarquez. Si un homme, et ensuite, si tout ton peuple. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications. Et que chacun, c'est pour cela qu'il est dit, si un homme, si tout ton peuple. Parce que c'est dans la mesure où un homme reconnaît la plaie de son cœur, et ce sera notre conclusion, sans doute, de dimanche, alors cela peut déclencher le processus qui va amener tout le peuple. Mais chacun doit reconnaître la plaie de son cœur, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et tende les mains vers cette maison. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun. On peut tromper les autres, mais on ne trompe pas Dieu. Si nous devons reconnaître, c'est parce que Dieu connaît. Et ça, c'est aussi un des grands messages du livre du prophète Osée. L'Éternel connaît, mais ton problème à toi, c'est que tu ne reconnais pas. Et parce que tu ne reconnais pas, il y a un jeu de mots extraordinaire dans le prophète Osée au chapitre 2, n'est-ce pas ? Parce que tu ne reconnais pas, le Seigneur ne veut pas te reconnaître. Te reconnaître. Mais un jour, quand tu seras passé au désert, dans la vallée d'Achor, lorsqu'elle sera devenue une porte d'espérance, ce sera aussi dans notre conclusion, alors il y aura une reconnaissance réciproque. Tu reconnaîtras l'Éternel et l'Éternel te reconnaîtra. Alors reconnais parce qu'il connaît, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, sans exception. Et j'aimerais ici conclure pour ce matin simplement en soulignant que mon plus grand ennemi, dans le réveil, dans ce processus du réveil qui consiste à reconnaître, mon plus grand ennemi, c'est l'orgueil. Parce que je suis toujours tenté de préférer, comme le dira si bien le Nouveau Testament, la gloire des hommes à celle de Dieu. Alors là, dans le prophète Osée, c'est impressionnant. Nous allons terminer sur cette fresque d'Osée concernant le drame, ce qui a amené le royaume du Nord à la déportation, n'est-ce pas ? C'est ce que nous voyons maintenant. Prenez Osée chapitre 5. Versets 3 à 5. Je le lirai dans la version à la colombe où le texte est très fort, mais peu importe la version. Osée 5, versets 3 à 5. Et nous avons ici la démonstration de ce que je vous expliquais sur connaître et reconnaître il y a un instant. Que dit l'Éternel ? Moi, je connais Éphraïm. Dieu affirme, je connais. Il ne m'est pas caché. Israël ne m'est pas caché. Éphraïm égale Israël, n'est-ce pas ? Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué. Israël est souillé. Nous avons évoqué toute la prostitution sacrée, le culte du veau d'or et tout le reste, n'est-ce pas ? Puis alors, il y a quelque chose qui est bouleversant, qui vous saisit aux entrailles ensuite. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, ils n'aiment pas l'Éternel, nous avons bien expliqué cela. Et la conclusion, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ça, c'est la conclusion. Qu'est-ce que le prophète veut dire? Quel est le caractère solennel du message? Mais il est très simple. C'est qu'ils ont commencé à se prostituer. Mais l'esprit de prostitution n'était pas encore là. Il y avait ici et là des actes individuels. Mais la nation tout entière n'était pas prise dans la gangue et dans la fange de la prostitution. Les prophètes sont intervenus. L'Esprit de Dieu a parlé. Mais hélas, au lieu de reconnaître, au lieu immédiatement, à l'aurore du péché, ou à l'entrée dans la nuit des fautes de la prostitution, on a dit non, non. Dieu ne voit rien. On a commencé à discuter, on a commencé à contester avec le message prophétique, et peu à peu, ce qui n'était que prostitution est devenu esprit de prostitution. C'est-à-dire qu'on est entré dans une mentalité de prostituée, ce qui n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Vous avez l'acte isolé, coupable, et puis vous avez l'installation dans la continuité du péché. Et ça, c'est le message très solennel. Et ce qu'osait dit au royaume du Nord, mais c'est là votre malheur. C'est que vous avez refusé d'écouter ce message réitéré des prophètes qui se sont donnés, qui ont perdu leur vie parfois, n'est-ce pas? Et vous vous êtes installé dans un esprit de prostitution par orgueil. Quand Dieu vous dit, tu as fait cela, vous répondiez, non, c'est pas vrai. Et vous mettiez plutôt votre masque d'insolente satisfaction au lieu de reconnaître. Chapitre 7, versets 8 à 10. Un texte bouleversant. Nous n'aimons pas les prophètes, mes amis, mais... Chapitre 7, versets 8 à 10. Regardez ces images, mais elles sont accessibles à chacun d'entre nous sans aucun problème. Éphraïm, toujours Israël, le royaume du Nord. Éphraïm se confond avec les peuples. Vous ne trouvez pas que c'est une image extraordinaire? Éphraïm, Israël, devait être un peuple à part, une nation à part, se distinguant de tous les peuples de la terre. Vous serez une nation sainte, un peuple mis à part. Vous serez saint pour moi, car je suis saint, dit l'Éternel. Vous allez vous distinguer de toutes les nations d'alentour. Et là, Osée est obligé de reconnaître que dans sa vie rétrograde et à ce niveau de recul, Israël, Éphraïm, se confond avec les peuples. Il n'y a plus aucune différence entre les nations alentour et le peuple d'Israël. C'est même pire. Parce qu'il reste un culte à l'Éternel, mais c'est un culte formaliste. Et c'est ça le problème, une fois de plus, de la vie rétrograde, n'est-ce pas? Dans la vie rétrograde, je deviens caméléon. Je me marie aux couleurs de mon environnement. Alors cela continue. Éphraïm, que ces images sont fortes, Éphraïm est devenu un gâteau qui n'a pas été retourné. N'importe quel cuisinière ou cuisinier qui aime faire de la pâtisserie, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. Quand on regarde par la vitre en allumant, n'est-ce pas, pour voir si c'est à peu près cuit, on voit une belle croûte dorée, hein, et on se dit, oh, ça y est. On va ouvrir, on va peut-être même, comme on le faisait souvent autrefois, enfoncer une aiguille à tricoter pour voir si ça colle encore ou pas, et puis finalement on se dit, bon, maintenant on va sortir du moule, hein, parce que les invités sont là, il faut laisser le temps de refroidir, hein. Oh, catastrophe, le dessous, mais il est si beau dessus, est-ce possible? Alors on essaye de trafiquer, parfois on gratte, n'est-ce pas, puis parfois on a tellement honte, on se dit, non, on ne peut pas présenter ça aux invités, il est si beau dessus, on aimerait tellement le mettre sur la table, on serait fiers. Ah oui, mais c'est qu'il y a le dessous, et le dessous, c'est du charbon. Alors c'est là l'image d'Ephraïm. Ephraïm est devenu un gâteau qui n'a pas été retourné. On met le masque. On ne voit pas ce qui est en dessous, n'est-ce pas? Des étrangers dévorent sa force. Quelle image du rétrograde! Il y a quelque part des sangsues, des pieuvres qui puisent, n'est-ce pas? Il y a quelque part une Dalila qui coupe tresse après tresse, n'est-ce pas? On n'a plus la force de l'Éternel. On se sent vide comme nous l'avons lu hier. Et alors là, il est dit, n'est-ce pas, après ce tableau, cette triple image, ces trois images du rétrograde tellement parlantes, des étrangers dévorent sa force et il ne le reconnaît pas. La vieillesse s'empare de lui et le texte hébreu laisse entendre qu'il commence à y avoir des traces blanches, des cheveux blancs, n'est-ce pas, à l'intérieur de la coiffure. La vieillesse s'empare de lui et il ne le reconnaît pas. Et c'est ça la vie rétrograde aussi. Ce sentiment d'être vieux dans son cœur. D'avoir justement perdu toute son énergie. D'être fragile. Et il ne le reconnaît pas. Et conclusion, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu. Et malgré tout cela, il ne le cherche pas. Voyez le drame d'Israël du temps d'Osée. Malgré tout ce qui leur arrive, ils refusent de reconnaître leur État. Alors nous arrêtons là ce matin, demain ou après-demain, nous allons voir, nous reprendrons cette pensée et puis nous irons vers les autres R. Mais c'est le premier. Reconnaître. Nous voulons prier.